la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous, bien en ce début d'année 2026, déjà la saison 23 de la Maison des littératures à voix haute. Et avec nous, toujours fidèle, bien sûr, Denis Lannoy, bonjour.
Bonjour à toutes et tous et bonjour Sylviane.
Donc, la Maison des littératures, et il y a une double page d'introduction, hein, mais je ne vais pas la lire à voix haute parce qu'il faut le lire par écrit. Hein. Le thème sur la pensée qu'on écrit avec un E, avec un A. Mais je vais reprendre tout de même vos textes. Nos plus grandes exigences philosophiques, poétiques, politiques, radicales et complexes. Donc voilà, tout est résumé. C'est un peu ce que vous avez voulu aborder dans ces tenues hier, les États généraux de la culture, au Prolé. Vous étiez nombreux et vous étiez à l'initiative et c'est concluant, c'est positif.
Oui, c'est concluant et positif parce que le souci, parce que je suis un des membres fondateurs des nouveaux états généraux de la culture, des arts, de la création, de l'éducation populaire et des médias.
Je crois oui, c'est vrai qu'on dit toujours la culture, mais c'est important.
C'est important de décliner parce que d'abord, il y a une pluralité, la culture... Peut-être on peut lui mettre un S. Mmh. Donc il y a une pluralité de pratiques, une pluralité de conscience aussi. Et nous avons le souci aux nouveaux états généraux de rassembler à la fois le monde de la création, le monde de la pensée, le monde des médias, de l'éducation populaire et le politique et les gens qui font de la politique pour que nous reprenions langue ensemble et que nous envisagions un avenir qui ne soit pas noir comme celui que nous le proposent les illibéraux et autres trumpistes à la française.
Oui, il faut bien sûr, on est dans un contexte là assez terrifiant et merci et bravo de lancer cette initiative de réflexion. Vous étiez nombreux hier au Prolé, puis il y aura d'autres réunions, ça va bouger, il faut que ça bouge. Hein. Alors pour en revenir à la Maison des littératures à voix haute, dans votre introduction vous parlez de la figure titulaire qui est Walter Benjamin, mais la saison est dédiée à Victor Hugo et je vois que avec la belle illustration de Stella Biagini sur Victor Hugo, qui est à plusieurs reprises dans le livre, vous avez décliné aussi en typographie différente Victor Hugo, Victor Hugo, Victor Hugo. Très connu, très célèbre dans toutes les langues du monde. Oui. Vous aimez Victor Hugo?
J'aime Victor Hugo, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul et puis c'est un peu un monstre sacré, c'est-à-dire que tout le monde a lu Victor Hugo et personne n'a lu Victor Hugo.
Ouais, oui.
Parce que évidemment, on a pu lire... les grandes œuvres, mais il y a plein de choses c'est un monde en soi, donc ça pourrait être quelqu'un qui nous accompagne tout au long de la vie, tellement l'œuvre est profonde et complexe et diverse. Et donc entre les textes polémiques, les textes politiques, la grande œuvre poétique, l'œuvre théâtrale, l'œuvre romanesque, c'est vraiment très très impressionnant.
Tout.
Ça semble difficile, à moins d'être vraiment le spécialiste.
Alors, j'ai oublié de dire aussi que cette saison, elle est plus spécialement consacrée à la poésie en enfance. Hein, l'enfance en poésie. Et Victor Hugo, il trouve sa place, bien évidemment.
Oui, tout à fait. Déjà, parce qu'il a écrit un assez beau recueil qui s'appelle « L'art d'être grand-père
ouais. ».
Il était c'était un père très attentif. Mmh. Qui a beaucoup eu de souffrance parce que ses filles a disparu.
Enfin,
c'est tout ça est une grande complexité. Il faut aussi lui reconnaître qu'il aimait la vie de famille, même si parfois sa vie de famille était un peu complexe entre sa femme officielle et sa maîtresse et les enfants de sa maîtresse, qui n'étaient pas les siens mais qu'il a élevés. Ça,
ouais.
Donc c'est quelqu'un qui avait un regard sur l'enfance. Il dit beaucoup de choses sur l'enfance et y compris dans ses textes. Politique.
Hein,
il a fait de grandes déclarations à l'Assemblée nationale en faveur de l'éducation dès le plus jeune âge et pour que le travail des enfants cesse. Et rien que ça, c'est
un engagement.
C'est un engagement total de toute une vie. C'est vraiment on peut lui être redevable.
Et je pense que Victor Hugo, personne n'a tout lu, mais le personnage de Cosette ou Gavroche sont des enfants qui sont des mythes universels. Alors il y a 15 soirées du mois de février au mois de juillet. Il y en a une au mois de juillet. Vous prolongez un petit peu. Il y a beaucoup... Vous commencez avec Victor Hugo, donc le jeudi 5 février, donc dans 2 jours. Et j'aime bien le début, Victor Hugo et Victor Hugo. Voilà, tout est dit. Donc, et vous mettez dans votre petit livret les contemplations. Pourquoi vous avez choisi celui-là ?
Oh, ben parce que pour moi, c'est une des œuvres majeures de Victor Hugo, avec cette poésie tonitruante et accomplie. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et une poésie courageuse. Mais je ne dirai pas que ça, je vais lire quelques poèmes d'amour aussi et de lettres à sa maîtresse.
Juliette Drouet.
Juliette Drouet et qui... alors, il y a un petit lien avec Nîmes, mais moi, ça m'amuse toujours, ça. Certains disent que la statue qui orne la fontaine Pradier, ça serait en fait Juliette Drouet, qui effectivement, à l'âge de 16 ans, a été la maîtresse de James Pradier et qui a eu un enfant avec lui et que Victor Hugo a élevé, une fille.
D'accord. Ok, que je ne connaissais pas. Merci pour l'anecdote, qui est loin d'être une anecdote, qui est aussi tout un pan en fait de l'histoire littéraire. Alors, il y a beaucoup de soirées, donc on va avancer un petit peu. Le 12, il y a Gabrielle Zalapi.
Gabriella. Oui, Gabriella. Alors, c'est une écrivaine plasticienne. Alors, c'est très intéressant parce que, vous savez, on a des partenariats avec l'École des Beaux-Arts de Nîmes et elle va venir 2 jours et pas une seule journée. Elle est le jeudi 12 février chez nous, mais la veille, elle est accueillie et c'est une collaboration heureuse, comme à chaque fois avec l'École des Beaux-Arts. Elle est accueillie par l'École des Beaux-Arts pour faire la veille un travail en atelier avec les élèves, les étudiants qui suivent le corpus de littérature créative à l'École des Beaux-Arts. La particularité de Gabriella, je l'ai dit, c'est qu'elle est à la fois plasticienne et écrivaine et qu'elle a des origines très diverses, ce qui fait qu'elle a une œuvre assez polymorphe, parce que...
Italienne, voilà, suisse, parisienne.
C'est vraiment quelque chose...
Mélange des cultures.
Mélange des cultures, mais à la fois une écriture qui a l'apparence du récit autobiographique, mais qui ne l'est pas. Et là, son dernier roman, c'est assez magnifique, sur l'errance d'un papa avec sa petite fille. Voilà, on a encore un lien avec l'enfance.
Il y a beaucoup de femmes dans cette saison, c'est bien.
Oui.
Il y a Victor Hugo en figure tutélaire.
Avec Juliette Drouet.
Et Juliette Drouet. Le 19 février, vous invitez la poète Alban Gelé.
Oui, on dit Gelé.
Je vois sa bibliographie dedans.
c'est quelqu'un d'assez prolifique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est très reconnu. Et puis elle vient de publier, et ça c'est tout à fait intéressant, une anthologie de la poésie française contemporaine, et qu'elle a avec que des auteurs vivants.
Contemporaine, c'est-à-dire depuis...
Le 21e siècle.
D'accord.
Et cette anthologie, en fait, c'est un paysage très construit de la poésie contemporaine, enfin, l'authentique poésie contemporaine.
Contemporaine, parce que c'est pour ça que je vous demandais préciser, parce que contemporaine, souvent, on ne sait pas trop
on pourrait,
où on fait la démarrer.
On est au 21e siècle. Et effectivement, donc, c'est un travail qu'elle a entrepris, parce qu'elle est très amie avec tout l'ensemble des poètes français, et entre autres avec pas mal de poètes qui sont déjà passés à la Maison des Littératures.
Comme par hasard. Mais vous trouvez toujours des nouveautés, vous vous tenez au courant, et c'est vraiment merci à vous de vous éveiller comme ça.
Et je recommande aux gens qui aiment les chevaux, qui sont passionnés par les chevaux, par l'équitation, il y en a beaucoup, de venir écouter Alban Gelé, parce qu'elle elle a un rapport au cheval. D'ailleurs, son premier texte, c'est « Je, cheval », qui est un merveilleux texte sur la relation entre l'homme et l'animal, mais l'animal-cheval. Et
Oui, je vois beaucoup de livres consacrés
dans les titres, cheval. Et en fait, ce qu'elle fait, elle publie de la poésie, évidemment, elle écrit de la poésie, mais elle pratique aussi, elle a une ferme avec des chevaux, et elle accueille les enfants avec les parents. Les enfants qui ont des souffrances.
Oui, en thérapie.
En thérapie. Voilà. Et donc, c'est tout à fait une expérience tout à fait passionnante.
mais vous recevez que des gens passionnants. Alors, un homme vivant, contemporain, Nicolas Martin, le jeudi 12 mars à 19h. Vous l'aviez déjà reçu, non?
Non, pas du tout, c'est la première fois. C'est la première fois. Bon, c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il faut le présenter, hein, c'est un grand animateur de France Culture qui a eu l'émission suivie par énormément de monde, La Méthode Scientifique. Et il est également journaliste et puis surtout scénariste et réalisateur et écrivain. Et donc, on est très, très, très heureux de l'inviter parce que c'est à la fois une voix singulière et c'est quelqu'un qui sait comment dire, après toutes ces expériences radiophoniques etc, on s'est dit maintenant il faut que je prenne un peu de recul, que j'écrive.
C'est pas le même travail.
Et donc c'est et on profite du fait qu'il soit en résidence à chez nos amis au Diable Vauvert. Pour l'accueillir.
Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle, mais je dirais que toutes les soirées sont importantes. Alors, je le disais dans l'introduction, l'angle est donné sur la poésie en enfance, et donc il y a la poésie, au pluriel, les poésies en l'état, édition 4, du lundi 16 mars au vendredi 20 mars. Il y a énormément d'ateliers, mais qui ne sont pas ouverts au public, on sait pourquoi. Maintenant, dans les écoles, c'est compliqué de faire venir du public. Mais il y a deux soirées, donc la rencontre lecture ou lecture rencontre du jeudi 19 mars à 19h et le colloque le vendredi 20 mars à 19h. Je m'aperçois que je n'ai pas redonné l'adresse, 26 rue de la République à Nîmes, réservation par mail réservation.fantaisie.littéraire@gmail.com ou par téléphone 06 17 53 02 60 ou par Facebook. C'est important puisque c'est souvent plein. Et même très souvent complet. Alors, vous avez invité les poètes, Philippe Berthaud et Sylvie Durbecq, qui vont donc animer tous les ateliers et aussi le colloque.
Alors, ce sont des ateliers qui auront lieu à l'école Jean d'Ormesson et également au lycée de la CCI. Et ensuite, nous aurons l'occasion le jeudi soir, comme habituellement, de faire une rencontre avec eux autour de leur œuvre. Et là, rencontre avec le public adulte. On a choisi ce thème de l'enfance en poésie parce que la question qui nous taraude, c'est la poésie. Est-ce que c'est juste un accessoire pédagogique qui permet aux enseignants de faire travailler la mémoire à leurs jeunes étudiants, ou au contraire, c'est quelque chose qui permet aux enfants, dès le plus jeune âge, de constituer leur être. Il y a sans doute deux possibles. Moi, j'ai plutôt tendance à dire c'est ce qui constitue l'être. C'est un être sans poésie est un être qui peut souffrir, alors qu'un être qui a accès, enfin qui peut constituer son être grâce à la poésie, donc à l'acceptation de la beauté extérieure et intérieure, il a plus de chances de vivre sa relation aux autres et sa relation à soi de meilleure manière et de manière positive. Donc on a décidé aussi que le vendredi soir, on organisait, en présence de psychiatres, de parents d'élèves, de représentants du monde enseignant et les poètes, de questionner cette question. Et à la fois pour s'apercevoir, par exemple avec les psychiatres, en quoi la poésie peut aussi être réparatrice et redonner du sens à des enfants en souffrance. Et là, on parlera de l'enfance, vraiment de l'enfance et de la poésie. Et à la fois pour se dire que grâce à la poésie, peut-être le monde est-il éternellement jeune, et que ceux qui sont des porteurs de destruction, en fait, sont les anti-poètes.
Les anti-poètes. Je vois à qui vous pensez. Alors, la poésie, elle nous emmène aussi dans un monde, je veux dire, extérieur, dans une rêverie. Et vous avez choisi le voyage, et vous avez choisi la Moldao. Ça s'impose, hein, c'est un thème très connu, mais en même temps qui nous emporte à chaque fois.
Absolument. La Smetana a fait une œuvre extraordinaire au 19e siècle. Mais
on l'écoute sans se lasser, et elle illustre bien cette saison 23 de la Maison des Littératures sur l'enfance, le voyage, la poésie, l'unité de la personne aussi, c'est ce qui semble important. « Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Denis Lanois pour nous parler de cette saison 23. Donc nous avons fait les dates de février à mars. Ah ben non, nous reprenons le 26 mars avec comme invité Denis Infante, là aussi un poète.
Romancier et poète, oui. Alors pourquoi il s'est intéressé à la poésie pendant toute une partie de sa vie, parce que il avait un autre travail et non pas que c'était une pratique de dilettante, mais enfin c'était une pratique où il a déjà publié, il avait déjà publié, mais c'était pas revendiqué comme activité principale.
D'accord.
Parce que bon.
Okay.
Et puis il est venu prendre sa retraite, et alors devinez où, dans les Cévennes, dans le Gard, et là il s'est mis à écrire. Véritablement.
Il avait le temps,
il s'est mis à écrire et il a publié un premier roman en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2024, qui est publié quasiment 6 mois après en poche, tellement
le succès était franc.
C'est un formidable roman qui s'appelle Rousse. Et où, parce qu'il y a un sous-titre, où les beaux habitants de l'univers. Et alors c'est formidable parce que c'est l'histoire d'une petite renarde. On se dit mais où on est,
c'est un livre pour enfants.
Voilà, on pourrait dire c'est un livre pour enfants. En vérité, oui, c'est un livre pour tous les enfants, c'est-à-dire ceux qui ont su garder
leur âme d'enfant.
C'est écrit comme un conte, mais sur le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette petite renarde est obligée de fuir son pays parce qu'il n'y a plus d'eau. Et elle fuit. Et alors, c'est écrit dans une langue absolument prodigieuse. Je recommande vraiment à tout le monde de lire ce roman qui s'appelle Le Rousse, quel que soit l'âge qu'on ait.
C'est en poche en plus.
C'est en poche maintenant.
D'accord. Ben écoutez, quand vous venez, je note un tas de romans.
Et c'est écrit dans une langue du Moyen-Âge d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que c'est une
langue qui utilise la manière d'écrire du Moyen-Âge, mais totalement dans notre monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle.
C'est
formidable. C'est vraiment. Par exemple, je l'ai lu à des classes préparatoires, à des classes prépa scientifiques.
Ils ont adhéré.
Ah, mais c'était miraculeux. C'était, j'avais l'impression, c'est tous ces jeunes gens qui avaient une vingtaine d'années, qui étaient comme un retour à l'enfance, subjugués par et j'aurais pu lire le roman en entier. Il n'y avait aucun problème.
Donc, merci et notez, hein, auditeur, auditrice, notez. Rousse de...
Denis Infante.
Alors, le jeudi avril, là, il y a une femme très connue, Laure Adler, qui est une des plus grandes intervieweuses de France. Vingtaine d'essais, deux récits, un roman. Et là, vous l'invitez pour une soirée liberté, c'est-à-dire une carte blanche, quoi, en fait.
Oui, on peut dire ça, mais on a évité le terme carte blanche.
qui est un peu banalisé, maintenant.
Oui, et puis à la fois, la carte blanche, c'est quelque chose de positif. Et alors, on s'est questionné, on s'est dit, et alors, si c'était une carte noire, ça serait quoi?
Ah, d'accord, j'aurais pas pensé à ça.
Eh bien, si, on y a pensé, et on s'est dit...
Et si c'est une carte noire, une soirée liberté.
Voilà, c'est une soirée liberté, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais alors, voilà, d'un seul coup, voilà, le terme nous a un peu... dans une période où je m'oblige à faire attention à tous les mots qu'on utilise, parce que la tentation du suprémacisme blanc, etc., est tellement forte qu'il faut faire très, très, très attention.
Vous avez fait attention, et puis on voit ce côté très, très intuitif, en fait, de chercher tout de même la petite bête, j'allais dire. Mais c'est important. Donc, c'est une soirée liberté. La première du genre, femme de lettres invitée, Laure Adler, on ne la présente plus. Alors, je crois qu'on ne présente pas non plus Nicolas Rey le jeudi 9 avril
je crois
à 19h.
Ce
n'est pas la peine. Hein.
Non, on peut juste dire que, comme il le dit lui-même dans sa présentation, il n'est pas cinéaste américain, il n'est pas joueur de rugby. Il est écrivain.
Il est écrivain, oui, écrivain invité. Bon, Vous avez une belle saison 23.
Un formidable titre, 13 minutes, qui a vraiment marqué les esprits. C'est
Vraiment, vous avez des invités, et c'est un vrai plaisir. Je redis, pensez à réserver vos places, parce que les murs ne sont pas extensibles. Le 16 avril, Rebecca West, présentée par sa traductrice, Sarah Idrissi. Voilà. Donc, Rebecca West, américaine.
Absolument. C'est important pour nous de faire aussi la place aux traducteurs qui sont, on l'oublie, de vrais écrivains. Et là, entre autres, la traductrice Sarah Idrissi, qui a traduit Rebecca West, est une authentique écrivaine. Et elle est traductrice de l'anglais. Et donc, Rebecca West, ça fait partie de ces grandes figures du féminisme du XXe siècle et qu'on a évidemment tendance à oublier. Alors, l'autre particularité, c'est qu'elle a été la journaliste du New Yorker qui a suivi le procès de Nuremberg. Et à ce titre, donc, c'est vraiment quelqu'un, enfin, un tel procès que ça soit elle qui soit envoyée, ça rend évident la place qu'elle avait à ce moment-là, dans les années, à la fin des années 40, dans le monde intellectuel new-yorkais. C'est une figure majeure de l'intelligentsia américaine des années 40-50, et il faut s'en souvenir.
Je ne l'ai pas vu encore, mais ce film Nuremberg qui vient de sortir, savoir si justement, ne pas oublier ce procès Nuremberg avec ses défauts, ses qualités, mais surtout la définition des crimes contre l'humanité, qui n'existait pas donc avant. Alors ensuite, nous passons au mois de mai, juin et juillet à des lectures de printemps. Et en juillet, ça sera une lecture estivale. Alors, c'est nouveau, ça, les lectures printanières?
On a déjà pratiqué ça. Il y a quelques saisons de ça, on avait fait des lectures chez l'habitant, dans les cours.
Ah oui, c'est vrai.
Et là, c'est un peu différent, puisque...
C'est dans le cercle de l'avenir.
C'est en partenariat avec le... Alors, dans la cour, là encore, vraiment en extérieur, parce qu'il faut se dire... La première date, c'est le 28 mai, et ça court jusqu'au 18 juin, donc... On est dans de bonnes conditions climatiques et c'est bien de prendre le frais à ce moment-là, parce que le mois de mai risque, encore une fois, et le mois de juin, ça peut être
très chaud.
Et on finira le jeudi 2 juillet en partenariat avec l'Institut des Studies Occitans à la maison diocésaine pour une lecture, là, le jeudi 2 juillet, du poème du Rhône, lecture bilingue à la fois en occitan et en français, évidemment.
Alors là, il peut y avoir plus de monde?
Hein, absolument. Il
ne faut pas réserver, là.
Non, il ne faut pas réserver.
Il faut avoir une pièce de 2 euros.
Pour la maison diocésaine, puisqu'on est invité par l'Institut d'études occitan. Donc, il n'y a pas de billetterie. Okay,
et par contre, de toute façon, 2 euros, c'est pas
sinon, c'est 2 euros. Voilà, c'est 2 euros
à la séance
dans la cour du Cercle de l'Avenir.
Alors, je pense que je vais reprendre les dates parce que vous les connaissez par cœur, mais pas nous. Le jeudi 28 mai à 19h, c'est la lecture de Le Carafon de Marc Bernard. Donc, c'est vous qui lisez?
Oui, alors là, on sera deux. On sera deux, puis on va s'amuser de faire une espèce de théâtre d'objets pour faire vivre les personnages qui sont tous des personnages hauts en couleur, ni moi, puisque les carafons, ça se passe dans le quartier de la Croix-de-Fer, entre le centre-ville et le quartier de la Croix-de-Fer. Alors, on sera dans la cour qui est dans le quartier Richelieu, donc on est potentiellement on est sur le trajet des personnages. Et la Nisette coulera à flot.
Il ne faut pas oublier, vous êtes metteur en scène aussi. Alors, le jeudi 4 juin à 19h, Recouvre-le de lumière de Alain Moncouquiol. Voilà. Je pense qu'il sera peut-être présent.
Oui, sans doute. Je lui ai demandé et je pense qu'il sera présent.
Jeudi 11 juin, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan.
Tout à fait.
Et quel beau texte. Jeudi 18 juin à 19h, l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, Georges Perec.
Voilà.
Donc vous avez choisi des textes, je dirais pas faciles, mais je veux dire plus dynamiques peut-être.
Oui, c'est ça. L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, c'est fabuleux.
Et donc le jeudi...
Fabuleusement drôle.
Oui, on a besoin de rire aussi, hein, parce que la poésie, c'est pas que de la prise de tête, hein, c'est aussi vraiment une joie de vivre, une raison de vivre. Et jeudi 2 juillet, donc à la Maison d'Ossisienne, le poème du Rhône de Frédéric Mistral. Vous restez très... La Maison des Littératures, elle est très locale, hein, elle est très sud, elle est très nimoise, elle est très, très ancrée dans le territoire.
Sur certaines choses, oui, mais enfin, François Sagan, Rebecca Vest, Nicolas Ray...
Non, je parle au niveau des lectures. Hein, au niveau de vos lectures, vous les ancrez vraiment un peu dans le territoire.
C'est un choix de... Quand on est sur les lectures, on est dans le patrimoine, ou le matrimoine. Donc, on peut se permettre, d'aller puiser des choses très diverses et puis de donner des fois des éclairages sur. C'est toujours amusant de faire vivre aussi un territoire par montrer que ce territoire-là a inspiré d'autres personnes avant, c'est bien. Mais enfin, Georges Perec, c'est un Parisien.
Ben oui, on ne peut pas être plus parisien que lui. Mais merci beaucoup, Denis. Et puis, je répète, surtout pensez à réserver, parce que le programme est magnifique, dense, et que ça risque d'être souvent complet. Merci à vous.
Merci.